Bonjour, c'est François Lay et vous êtes sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Depuis 2017, je vais à la rencontre des entrepreneurs qui m'inspirent. PME, start-up, restaurants, grandes entreprises, la mission de Serial Entrepreneur est de mettre en avant toute la diversité de l'entrepreneuriat francophone. Vous écoutez le 54e épisode de Serial Entrepreneur. J'ai reçu Justine Mont-Saint-Jean, la cofondatrice et CEO de Dinseo, le spécialiste des applications de rééducation et stimulation cognitive pour tous. Créée en 2013, Dinseo développe trois applications d'entraînement cérébral. La première, Coco, l'app numéro 1 des jeux éducatifs à destination des enfants de 5 à 10 ans. La deuxième, c'est Joe, à destination des personnes qui souhaitent booster leur cerveau et développer leur culture générale. Et la troisième et dernière, c'est Edit, des jeux faciles et adaptés pour préserver la mémoire des seniors. Ces trois applications sont toutes disponibles sur les stores en téléchargement, et en quelques chiffres, c'est plus de 60 000 joueurs et des applications déclinées dans 11 pays. Dans ce 54e épisode, vous pourrez écouter et découvrir toute l'histoire de Dinseo et comment Justine a eu l'idée de créer cette société, le fait d'entreprendre avec sa maman, car la cofondatrice de Justine n'est autre que sa mère, comment ont-elles fait pour créer ces programmes d'entraînement cérébral, comment les ont-elles testés, quel a été l'impact de la pandémie sur Dinseo, le moment le plus difficile de son aventure et ce dont elle est la plus fière aujourd'hui, ou encore ses meilleurs conseils pour entreprendre. J'espère que cet épisode vous plaira. Nous, on se retrouve lundi prochain, même heure, pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, si le podcast vous plaît évidemment, de vous abonner sur la plateforme de votre choix, de partager l'épisode des Serial Entrepreneurs à votre réseau en n'hésitant pas à me taguer, et de me rejoindre sur Instagram, @serialentrepreneur avec un S et le tiré du bas à la fin. Moi, je vous souhaite une très bonne écoute. Très bonne semaine et à lundi prochain. Salut Justine, comment tu vas ?
Merci François, ben, je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui.
Donc Dinseo, c'est le spécialiste des applications de rééducation et simulation cognitive pour tous. On aura l'occasion d'en parler et de raconter l'histoire de Dinseo dans ce podcast. Moi j'aime bien démarrer tous mes échanges par le parcours de l'entrepreneur et notamment ma première question, c'est de savoir dans quel environnement tu as grandi.
Moi, je suis une famille, on est 4 enfants. Mon père a fait toute sa carrière dans un grand groupe, il était chez Total, pétrolier, donc bien 30-40 ans dans la même entreprise, etc. Et ma mère, à l'inverse, en fait, elle s'est beaucoup orientée sur le domaine de la santé, parce qu'on avait, ma grande sœur a eu des problèmes de santé, et c'est elle qui nous a transmis ce goût de l'entreprise, parce qu'elle a monté sa boîte, qui s'appelait itsoke.com, parce que mon famille c'est Soke, donc ça fait Itsoke, et elle a monté plein de projets, et en fait maman c'était plutôt la savant folle, je ne prendrais pas forcément très bien, mais c'était la savant folle parce qu'elle a 1000 idées à la seconde, des idées plus brillantes les unes que les autres, si tu veux. Dans les années 2000, elle disait que elle avait développé un outil pour faire des diaporamas en ligne en disant que la photo, ça allait être hyper intéressant, ça allait vachement bien marcher. Elle avait fait un outil sur le web où tu peux faire des animations, etc. Elle l'a jamais vendu, mais ça a cartonné. Maintenant, elle avait fait un outil qui est comme un Google Agenda qui s'appelait It's Our Day, tu prenais facilement rendez-vous. Elle avait fait un outil qui est un réseau social pour partager ses recettes de cuisine, inviter ses amis, savoir ce qu'on leur avait fait à manger pour pas leur refaire le même plat, etc. Et elle a toujours eu énormément d'idées. Mais elle n'allait pas forcément au bout des choses. Mais elle avait 1000 idées à la seconde. Et moi, j'ai fait l'EM Lyon comme école. Donc, c'est une école de commerce. Et on avait une majeure entrepreneuriat. Et pendant 3 mois, tu devais monter ton business plan, monter ton entreprise. Et c'est comme ça qu'on a eu le goût.
Ça a été quoi, justement, ton parcours avant d'entreprendre ? Est-ce que tu t'es direct lancé ? Ou est-ce que tu as eu des expériences ? Je crois qu'il y a eu aussi une expérience dans un EHPAD qui t'a aussi marqué et qui t'a permis potentiellement de créer Dinseo par la suite.
Ouais. Juste après l'EM, moi, je suis partie, j'ai travaillé dans des cabinets de conseil. Je travaillais chez Altran en tant que business manager. Et ce qui est vachement, ce qui était une expérience très formatrice, parce que chez Altran, quand tu commences en tant que jeune business manager, en fait, tu dois démarcher tes clients, tu dois recruter tes consultants et les manager. Et tu gérais ton propre PNL, ce qui était fou à 23 ans quand j'ai démarré, et hyper formateur. J'ai fait ça pendant quelques années. Après, j'avais envie de plus d'humains, donc je suis partie... monter un autre cabinet de conseil, et puis finalement c'était toujours la même chose, et j'avais du mal avec l'idée de vendre des hommes, parce que finalement quand on est dans le conseil, on vend un consultant, et ça me dérangeait l'idée, donc j'ai quitté du jour au lendemain. Je suis allée voir maman justement, je lui ai dit bah tiens, t'as des idées super, je vais t'aider à les vendre, on va travailler ensemble. Et puis en même temps je me suis proposée en tant que bénévole dans une maison de retraite qui était à côté. Et c'est là où j'ai eu le coup de cœur, parce que je me suis dit, on va faire des trucs utiles. Et c'était vraiment ce qui me manquait dans mes expériences précédentes, où j'avais le côté entrepreneuriat, le côté challengeant, mais j'avais pas le côté utile, t'es fière de ce que tu fais. Et quand je suis allée en maison de retraite, en fait, on m'a fait jouer avec les résidents. J'étais animatrice, hein, j'étais là pour les divertir. Et c'était les jeux que je donne à mes enfants. Aujourd'hui, ils me disaient, mais vous me prenez pour des enfants. Il y avait des mémories, il y avait marqué 0 à 3 ans sur la boîte. Évidemment, c'était leur capacité, mais on les dévalorisait vachement. Et c'était en 2013, j'étais venue un jour avec un iPad. Alors, c'était pas du tout autant développé qu'aujourd'hui. Et ils avaient trouvé ça magique, si tu veux. Tu touchais l'écran, ça bougeait. Ils appelaient ça l'ardoise magique. Mais je me suis rendu compte qu'ils avaient toujours cette curiosité, en fait. C'est pas parce que t'as 88 ans, que t'as la maladie d'Alzheimer, que t'es en maison de retraite, que tu peux pas découvrir de nouvelles choses, t'émerveiller. Et cette petite étincelle que tu retrouves dans leurs yeux en se disant, tiens, j'ai des jeux d'adultes. J'ai des jeux qui eux aussi étaient fiers d'eux, étaient hyper importants. Et c'est comme ça, donc j'ai embarqué maman dans l'aventure, je lui ai dit, bah, tiens, on va développer ensemble des applications de santé qui vont être utiles, et on va commencer par les seniors.
Comment justement est-ce que tu as testé cette première app qui était dédiée aux seniors ? J'imagine que tu es allé sur le terrain, tu es allé rencontrer justement des personnes âgées, et tu leur as fait tester du coup cette première app ?
Alors je pense que j'ai passé 6 mois en maison de retraite en stage immersif, parce que j'y ai même dormi, j'ai passé un temps fou dans les maisons de retraite, mais pour vraiment tester les jeux et qu'ils soient hyper adaptés. Là où on a eu énormément de chance dès le départ, c'est que comme maman avait déjà développé des applications mobiles, des jeux un peu partout, on a eu très vite un proto à tester. C'est-à-dire qu'il n'était pas parfait, mais on pouvait tester des jeux. Et en B2B, tu peux te permettre que ce ne soit pas parfait pour le tester, parce qu'on était accompagnés avec les orthophonistes des établissements, les animateurs, etc. Et donc, très vite, on a testé des protos, même qui ne fonctionnaient pas. On travaillait jusqu'à 2h du mat pour les construire. Mais le lendemain, on allait en maison de retraite, on le testait. Et en fait, c'est ce qui fait la force de nos programmes aujourd'hui, c'est qu'ils sont hyper adaptés. On a une version qui s'appelle Edit, qui est très très simple et qui ne va pas mettre en échec des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Et bien, à chaque fois, les familles nous disent, mais c'est génial parce qu'ils y arrivent. Et en fait, on a fait 4 gros boutons, des questions hyper adaptées à leur âge, à leur capacité. On a ralenti les effets, on a mis que des références culturelles qui allaient leur parler. Et ça, on n'y serait pas parvenu si on n'y avait pas passé tout notre temps, quoi.
Aujourd'hui, vous avez 3 programmes, du coup, trois applications. Coco, qui est plutôt dédié aux jeunes de 5 à 10 ans. Ensuite, on a Joe, qui est plutôt coach cérébral. Et Edith, comme tu en parlais, qui est plutôt coach mémoire. Ce qui est hyper intéressant, c'est de savoir comment est-ce que vous avez justement développé ces 3 programmes. Comment est-ce qu'on crée des jeux de mémoire ? Comment est-ce qu'on crée des jeux cérébraux ? C'est une partie qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu peux m'en dire plus ?
Alors, au tout début, quand on a eu l'idée de créer Dinzeo, donc j'en ai parlé à maman, qui était partante, et on s'est dit, bah, il nous faut des médecins avec lesquels bosser. Et on a appelé l'hôpital Broca, qui est un des plus gros hôpitaux gériatriques. On est allé les voir. Ils nous ont reçus du jour au lendemain, mais parce que gros coup de bol, c'était pendant les vacances scolaires, il n'y avait personne. On leur a parlé de notre projet. Ils nous ont dit, ah, c'est super, parce qu'on fait des choses sur ordinateur, mais... Une personne Alzheimer, elle ne peut pas manipuler une souris qui coordonne l'écran, c'est beaucoup trop compliqué. Donc le tactile, il y a quelque chose à creuser. Et après, on leur a dit, on n'a pas de sous. Après, ils nous ont dit, on n'a pas de sous. Donc, on s'est dit, bah, c'est bien, chacun va apporter sa matière grise. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé les jeux avec des orthophonistes, des neuropsies, des ergothérapeutes. Mais il faut savoir qu'on n'a pas réinventé la poudre. On a voulu toujours tout de suite faire quelque chose fonctionnel qui allait parler aux professionnels de santé. Et en fait, on leur a dit, qu'est-ce qui marche bien sur le terrain ? Quels sont les jeux qui plaisent, les jeux qui sont adaptés, qui sont exhaustifs, qui font travailler toutes les fonctions cognitives, etc. Et après, on les a numérisés. Mais on est parti de ce qui marchait bien. On n'a pas réinventé la poudre. Là où on a été assez innovant, c'est qu'on a dit, OK, ils jouent sur tablette, on ne leur met pas forcément les scores parce qu'on ne veut pas les mettre en échec, mais on a créé un back-office pour que les professionnels de santé puissent suivre à distance leurs patients. C'est-à-dire que dans l'application, une personne qui a des troubles cognitifs, on ne lui dit pas qu'elle y arrive de moins en moins bien. Ça ne sert à rien. Ça va la déprimer et c'est contre-productif. L'important, c'est qu'elle prenne plaisir à jouer. Mais le médecin, en back-office, va suivre les performances, repérer les fragilités. C'est ça qui a été le plus long à mettre au point. C'est ces algorithmes qui permettent de dire si une personne va bien, va moins bien, sur quelle fonction cognitive elle doit travailler, etc.
Et du coup, il y a un suivi sur chaque application, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Alors, sur la partie des seniors, c'est plutôt le professionnel de santé qui le fait à distance. Alors, sur la partie des adultes, le programme JO dont tu parlais, il est beaucoup utilisé post-AVC ou post-Covid, parce que malheureusement, aujourd'hui, les patients qui sont atteints du Covid doivent rééduquer leur mémoire. Et eux sont capables de se stimuler, de suivre leur performance. Et puis, on a développé un coach cérébral virtuel, qui permet de donner des conseils, de préconiser des jeux, etc., en fonction des performances. Donc, les gens sont plus autonomes. Et sur la partie enfants, oui, les enfants sont capables de suivre aussi leurs apprentissages. C'est juste sur la partie senior, on ne voulait vraiment pas les mettre en échec.
Et aujourd'hui, ces trois applications sont disponibles sur les stores en accès. C'est quoi le business model justement ? Est-ce que c'est un abonnement mensuel ? Est-ce que c'est de l'achat in-app ? Comment ça se passe ?
Alors, ce sont des abonnements. Tout le monde peut tester les applications gratuitement. Il suffit juste de la télécharger. Et après, c'est des abonnements. Mais pour te dire une idée, pour un particulier, 3 mois, c'est 15 euros ou 50 euros l'année. Donc, on essaye d'avoir des prix hyper abordables pour que ce puisse... pour que ça puisse être accessible pour tout le monde.
Ouais, bien sûr. D'Inseo, ça a été créé en 2013. J'imagine qu'il s'est passé énormément de choses en 8 ans. Est-ce que tu pourrais me résumer un peu les grandes étapes depuis la création d'Inseo ?
Ouais. 2013, on commence sur les seniors et les EHPAD. Après 2014-2015... on va progressivement vers les adultes, parce qu'en maison de retraite, ils nous ont dit « Ah ben c'est super, mais on aurait bien aimé découvrir vos applications quand on pouvait faire quelque chose. » Parce qu'en prévention ou en début de pathologie, tu peux être capable de maintenir tes capacités cognitives, récupérer. Alors que quand tu as des troubles avancés, tu vas juste maintenir et tu vas pas pouvoir récupérer ta mémoire et tes fonctions cognitives. Donc c'est très important pour nous et c'est un de nos gros enjeux d'aller sur du domicile, d'aller sur de la prévention. Progressivement, on est allé sur du handicap. En fait, la version Coco, on l'a fait parce qu'on avait des établissements handicap qu'utilisaient notre version pour les seniors en nous demandant de mettre du rap dans l'application plutôt que Edith Piaf et Aznavour ou nous demander d'adapter les références. Et on s'est dit, oulala, on va pas mettre du rap en maison de retraite, on va faire une version pour les enfants, une version pour les adultes. Donc, on a travaillé sur le secteur du handicap. La version Coco, en fait, elle est soit utilisée en école primaire ou à domicile ou par des établissements handicapés quand ils jouent avec les niveaux plus faciles. Pour nous, c'était très important aussi de ne pas les catégoriser handicap et de faire en sorte que les enfants, même s'ils ont des troubles, que ce soit dyslexique, autisme ou une trisomie, puissent être considérés comme des enfants comme tout le monde. Donc, ils ont la même application. Et ensuite, on a commencé à se développer aussi à l'international. Depuis 2016, on a des versions italiennes, on a des versions belges, suisses, canadiennes, américaines, on a une version chinoise aussi et néerlandaise. En fait, chaque pays a sa propre adaptation culturelle. Donc en France, nos coachs s'appellent Edith et Joe. En Italie, c'est Sofia et Roberto, pour Sofia Coppola et Roberto Benigni. Aux US, c'est Scarlett et Clint. Pour Scarlett O'Hara et Clint Eastwood. Ne me demande pas les versions chinoises et néerlandaises. Là, j'ai été perdue dans les références. C'est Zixiu Xuxi. Mais c'est ça qui plaît, en fait. C'est que chaque pays, tu vois, dans les jeux sur les recettes de cuisine, évidemment, les recettes italiennes, ce n'est pas les mêmes que les françaises. Les jeux, c'est la géographie. Les Américains, ils doivent mettre leurs états américains, alors qu'en France, on place les départements sur la carte. On a un jeu où il faut mettre les événements dans l'ordre chronologique. On a mis aux US, on a mis les présidents américains. Au UK, on a mis les rois et les reines d'Angleterre. Et en France, on n'a pas encore mis les présidents français, parce qu'on s'est dit que ça, voilà, ça allait moins toucher. On essaye d'avoir cette adaptation culturelle par pays.
Et c'est quoi, du coup, les retours utilisateurs, justement, sur vos applications ?
Au début, on travaillait beaucoup en B2B, surtout en B2B, parce qu'en tant que start-up, nous, on a fait le choix de ne pas lever de fonds. Et donc, c'était plus facile d'aller démarcher du B2B. Donc, on travaille beaucoup avec des maisons de retraite, services d'aide à domicile, des cliniques, des hôpitaux. Et donc, évidemment, on avait des super retours des professionnels de santé parce que ça leur faisait gagner du temps et que c'était aussi plus valorisant pour eux d'utiliser des outils sur tablette que papier-crayon, devoir les recréer à chaque fois, etc. Nous, on leur fait vachement gagner de temps. Mais c'est vrai que depuis qu'on est plus sur du B2C, pour nous, c'est super parce qu'on a les retours des familles et c'est ça qui nous motive chez Dinzeo, qui nous disent bah, voilà, que leurs parents vont mieux depuis qu'ils jouent, qu'ils arrivent à recréer du lien, que leur enfant autiste arrive à développer des apprentissages, qu'il est plus... moins énervé, plus concentré. Voilà, c'est surtout, c'est vrai que c'est vachement valorisant pour ça de faire du B2C parce qu'on est directement en contact avec les familles.
Ouais, c'est hyper important aussi de voir tout l'impact qu'on a via vos applications, quoi.
Tu vois, hier, mon assistant, il avait une dame au téléphone qui était handicapée. Bref, on lui a fait quelque chose pour son fils parce que du coup, elle avait vraiment besoin de Coco pour pouvoir s'occuper de son fils et elle ne pouvait pas. Et elle a pleuré au téléphone. Elle a dit, mais on n'a jamais été aussi gentil avec moi, on m'a accompagnée. Et mon assistant, il m'a dit, mais je veux faire plus de B2C. Moi, je lui ai dit, non, j'ai besoin de toi. Mais voilà, ouais, c'est vrai que c'est ça qui est vachement sympa.
Il y a une question que j'ai rajoutée l'année dernière, forcément liée au contexte, et j'imagine que ça a eu très certainement un impact. C'est quel a été l'impact justement de la pandémie sur ta société ?
Alors nous, ça a été cata au départ, parce que on travaillait exclusivement avec des maisons de retraite et des familles à domicile. Et les maisons de retraite, on n'a même plus essayé de les prospecter parce que eux, leurs enjeux, c'était de sauver les résidents. On avait beaucoup nos professionnels de santé au téléphone qui étaient à bout parce qu'il n'y avait pas de personnel. Il y en a quand même qui ont été hyper courageux, qui sont allés dormir en maison de retraite pendant 3 semaines pour préserver les résidents et pas sortir et leur faire courir le risque de leur transmettre le virus. Donc ça a été pour eux c'était chaud, mais pour nous aussi il y a eu des grosses répercussions et en fait nous on s'est recentré sur nous pour travailler sur le produit, travailler plus sur la partie enfant. Mais c'est vrai que les maisons de retraite c'était dur, on a eu beaucoup de familles au téléphone qui nous demandaient de supprimer des comptes parce que leurs parents étaient morts. Donc pour les équipes commerciales c'était costaud à avoir au téléphone. En plus, nous, on était une start-up, on était tous à distance et on a hyper mal vécu le confinement. Parce que déjà, on est sur Paris, on est beaucoup de jeunes, et il y en avait des jeunes qui étaient en coloc, qui n'avaient pas de table pour travailler, donc c'est quand même pas forcément très pratique. Moi, je passais mon temps à coordonner les gens et je travaillais jusqu'à 2h du mat tous les jours. Et en fait, t'as pas tes clients à 2h du mat parce qu'en fait, la journée, j'avais mes 2 enfants qu'il fallait occuper. Ça a été super dur. Le Covid, on était le jour où on s'est tous retrouvés. Je crois que c'était le bonheur. Et ouais, ça a été dur en entreprise. Après, on s'est recentré sur nous, sur notre produit. On s'est dit, on va pas démarcher nos clients, on va améliorer le produit pour être plus prêt sur du B2C. Mais psychologiquement, ouais, ça a été compliqué.
Ok, et c'est après-Covid, même si on y est encore, hein, malheureusement. Comment est-ce que tu l'as vécu, toi, personnellement, justement, cette reprise aussi, potentiellement ?
Personnellement, ça a été super dur parce que t'as aussi le côté entrepreneur, c'est très dur parce que tu dois être solide pour tes équipes. solide dans l'avenir, mais toi, tu es à bout psychologiquement, tu te dis les maisons de retraite, ça s'écroule, il faut que tu trouves un... Quoi, tu te dis quels vont être les débouchés. J'avais l'impression de repartir dans les débuts d'année, tu sais, où tu te dis, mais comment je vais payer mes salariés à la fin du mois? Ça, c'était ma grosse crainte des deux premières années. Et là, 8 ans après, tu te dis, je suis au même moment, au même endroit. Et comme personne n'avait l'avait prédit, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Parce que nous, notre marché principal était au fond du gouffre et va pas ressortir de sitôt, parce qu'en ce moment, ils sont en train de faire la troisième vague de vaccination. Voilà, ils sont sur d'autres sujets que stimuler cognitivement leurs résidents. Donc, ça a été super dur, vraiment, vraiment super dur. On a eu des burn-out dans l'équipe. C'était vraiment dur. Et puis en plus, on te demande de faire, entre guillemets, un choix entre... ton métier d'entrepreneur, tes enfants, tu dois t'en occuper. Évidemment, j'étais la première à les coller derrière des écrans, mais parce qu'on n'avait pas le choix. Donc, tu les abandonnes. Les enfants à 5 ans qui ne voient pas leur école, etc., pendant 3-4 mois, ils n'ont pas dormi. Ils dormaient très, très mal. Parce que je pense qu'ils étaient inquiétés. Ils ne comprenaient pas pourquoi on n'avait pas le droit de sortir. Il fallait faire des papiers pour qu'on se fait arrêter. On s'est fait arrêter plusieurs fois dans la rue, quoi. Je pense que c'était une période très stressante qui n'était pas facile. Après, qui va nous faire du bien chez Dinzeo, parce qu'on a travaillé sur le produit. En fait, on était très B2B. Et là, sur le B2C, on a travaillé des coachs cérébraux virtuels, des petits personnages sympas, Coco, Edith et Joe, qui accompagnent les utilisateurs, qui leur poussent des recommandations. On a travaillé beaucoup sur la data, mais dans la douleur.
Bon, dans tous les cas, le plus important, c'est que vous soyez toujours là et que vous avez su vous réinventer quand même, hein, en sortant de nouveaux produits, de nouvelles choses. C'est quoi les objectifs futurs pour Dinzeo ?
Aujourd'hui, notre gros sujet, c'est l'éducation. On ne va jamais abandonner la partie senior, c'est toujours une partie qui est très importante pour nous. Mais on a décidé dans les prochains mois de développer encore plus la partie coco et la partie éducation. Ne serait-ce parce qu'on l'a vu pendant le confinement. On n'a jamais trop communiqué sur notre programme de jeux éducatifs pour les enfants, parce que tu le sais aussi bien que moi, les écrans sont diabolisés, on dit qu'il ne faut pas mettre les enfants derrière les écrans, etc. Mine de rien, le Covid a fait que tous les parents comme moi ont mis leurs enfants derrière les écrans pour être tranquilles, pour faire un zoom avec les équipes. Donc on l'a tous fait, que maintenant aux écoles primaires il y a des écrans partout. Donc on s'est dit, faut arrêter de diaboliser les écrans. Les écrans font partie de nos vies, ils nous voient tous derrière, tout le temps derrière nos téléphones, donc ils vont vivre avec. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de plus intelligent qu'un contrôle parental? Et c'est là qu'on a eu l'idée de Coco Sport, en fait, qui est quand tu joues à notre programme de jeu éducatif Coco, au bout de 15 minutes d'écran, on t'impose une pause. C'est-à-dire que tu as le petit personnage Coco qui bloque l'application et qui te fait danser, sauter, tu fais un, deux, trois soleils, timide des animaux, timide des émotions, tu fais du yoga, de l'équilibre, mais tu ne retournes pas sur ton écran. Et là, on l'a sorti en octobre, on l'a testé avec des écoles et c'était magique parce qu'au début, tu avais les enfants, tu les voyais bien, qui étaient accros, qui disaient « Ah, moi, j'ai le droit à 2-3 heures d'écran par jour. » Je disais « Oui !» Et qui disaient « Non, moi, je veux jouer. » Et qui finalement voyaient leurs copains faire des sauts, faire la pyramide, le machin, etc. Et en fait, ils deviennent actifs. Ils ne sont plus omnibulés par leurs écrans. Et c'est ça qui crée beaucoup de problèmes cognitifs chez les enfants, parce qu'ils ne développent pas le langage, le physique, la communication, parce qu'ils sont... C'est le zombie YouTube, tu vois, ils regardent. Et là, du coup, ils sont obligés de sortir, de reculer, de s'aérer, et c'est hyper positif. Et ça, ouais, c'est notre gros enjeu, c'est de lancer cette partie Coco Éducation et cette pause physique qui est hyper importante pour les enfants.
Ça me rappelle quand j'étais petit, tu dois connaître certainement le jeu Docteur Kawashima,
ouais.
Sur Nintendo DS.
Exactement. Il avait fait un
pareil,
carton.
C'était sur écran aussi, donc potentiellement on pouvait. Il avait fait un carton, c'était génialissime. Je passais pas mes journées dessus, mais bien une heure par jour dessus, quoi. Et ça m'a marqué parce que c'était des petits jeux d'entraînement cérébral, etc. Bon, sans la partie sport, hein, qui est quand même importante. Mais c'est un, c'est quand même quelque chose qui a marqué, je pense, l'histoire du jeu vidéo, surtout sur la première Nintendo, quoi. Donc,
Même chez les seniors en maison de retraite, hein, ils ont beaucoup utilisé le docteur Kawashima.
C'est quoi les... Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur Dinseo aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on a un peu plus de 60 000 joueurs sur nos applications. On est présent dans 11 pays. On est 12 personnes. 12 personnes, mix entre du développement et des postes commerciaux. On est présent dans un peu plus de 2000 structures aussi.
Ok, super. On va passer à la partie bilan. C'est deux questions qui s'opposent. Quel a été le moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale ?
Le moment le plus difficile, ça a été, je pense, le choix de la non-levée de fonds. C'est une question qui est très compliquée parce que tu me le disais en intro et c'était vrai. À l'époque, tout le monde parlait de levée de fonds. Ce qui intéresse les journalistes, ce qui intéresse le monde, etc., c'est les levées de fonds. C'est combien tu as levé ? Et nous, avec maman, on avait fait la stratégie inverse, et tout de suite d'aller chercher des clients. Au bout de 6 mois, on avait nos premiers clients. Mais on avait un produit qui était peut-être imparfait et on se débrouillait avec des subventions, avec les abonnements qu'on vendait. Mais voilà, on s'est débrouillé vraiment avec les moyens du bord. Et tu as toujours cette petite voix dans ta tête qui te dit, qui rêve que de grossir. Nous, on est présents dans 11 pays et on sait qu'on pourrait cartonner si on avait beaucoup plus de moyens. Mais en même temps, moi, je suis trop prise par l'opérationnel parce que je fais beaucoup de commercial et que du coup, je n'avais pas forcément le temps de faire une levée de fonds. Et en 2016, on a avancé avec la Caisse des dépôts sur une levée de fonds. Et on s'est dit on y va, on va lever un million d'euros, etc. Il s'est avéré que je suis tombée enceinte sans le savoir, que j'ai découvert ça au bout de 3 mois et que j'étais enceinte de jumeaux. Et la Caisse des dépôts me demandait de plus en plus de BP, de dossiers, etc., que je bossais tard le soir. Il faut dire que quand même j'ai bossé jusqu'à la veille de mon accouchement, qui avait eu une grosse engueulot avec ma mère, et j'ai repris 2 semaines après. Hein. Donc, c'est pas non plus, j'étais pas à me la couler douce. Mais au bout d'un moment, je crois, à 6-7 mois de grossesse, j'ai dit à la Caisse des dépôts, je vais pas pouvoir, parce que là, je vais finir par accoucher, et je peux plus bosser jusqu'à 1h, 2h du mat pour me demander d'où tu suis, j'y arrive pas, quoi. Il faut que je vende des abonnements pour payer mes gars. Et on s'est dit avec maman qu'on allait continuer comme ça, avec les moyens du bord. Ça a été très difficile parce que tu te dis toujours est-ce que j'ai fait le bon choix et là encore récemment on se pose régulièrement la question est-ce qu'on a besoin de lever des fonds ou pas, est-ce qu'on va rater le coche si on le fait pas, ça c'est toujours une question qui restera en suspens.
Ouais, bah après vous pouvez toujours enclencher une levée, enfin c'est jamais trop tard, j'ai envie de dire.
C'est jamais trop tard, mais je vais te dire un truc. L'autre jour, on a vu un investisseur qui était vachement intéressé. On a eu 2 approches. On a eu un Américain hyper chaud, etc., qui voyait tout de suite la vision. Et c'était vachement marrant, la vision française et la vision américaine, parce qu'on les a vus à peu près au même moment. Donc l'Américain très show-off, tous les pays, machin, etc. Je vois the big picture, machin, etc. Ouais. Et le français Big Picture, mais qui disait « Mais vous avez 8 ans, pourquoi vous n'avez pas levé plus tôt ?»« Ah, parce que vous êtes tombée enceinte. »« Ah, oui. Bah, c'est vrai que c'est compliqué. » Et voilà, tu as senti tout de suite que le fait que tu sois une femme, c'était compliqué et que tu ne l'as pas fait plus tôt. J'avais beau lui expliquer qu'on ne l'avait pas fait parce qu'à l'époque, on allait y arriver. Par nos propres moyens, qu'on était sur le B2B et que là, on sent que c'était le bon moment parce qu'on voulait faire du B2C à grande échelle, sur les enfants, sur les seniors, sur différents pays. Pour lui, on avait loupé ce coche. Et puis, j'étais une femme. Et puis, on était 2 femmes. Donc, voilà.
Ouais, ça c'est dramatique en France, hein, encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, on en a déjà parlé dans ce podcast, dans pas mal d'épisodes. Il y a déjà toujours une vraie différence de vision entre les États-Unis et la France. Encore plus dans le monde des investisseurs, hein, puisque le monde des investisseurs, c'est quand même majoritairement des hommes. un peu âgé, blanc aussi accessoirement, ce qui fait que voilà, c'est un peu stéréotypé, on va dire, les levées de fonds en France. Et c'est vrai que si demain vous levez des fonds, je pense que vous avez plutôt intérêt à le faire aux États-Unis que ici, quoi, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est des choses qui évoluent. Il y a de plus en plus, il y a de plus en plus de choses qui sont faites aussi, mais on est encore loin des objectifs et de la normalité, on va dire. Donc c'est assez triste d'entendre ça, même si je l'entends souvent, malheureusement, dans le podcast. Mon autre question, c'est de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui ?
De mon équipe et de ce qu'on a réussi à faire. Je pense qu'on est, quoi, on est relativement une petite équipe, vu qu'on est 12 personnes, mais on s'est battu pour faire un énorme truc, quoi. Si tu veux, on a des applications dans 11 langues, on fait les enfants, les adultes et les seniors. Et là où je pense que beaucoup d'entreprises auraient été monoproduit un truc, nous, on s'est dit, on va réutiliser ce qu'on a, on va faire une bibliothèque d'outils personnalisables et on va en faire un énorme truc. Et ça, je dois beaucoup à ma mère, qui est notre directrice technique aujourd'hui, d'avoir tout de suite vu plus grand et fait en sorte que notre technologie s'adapte à plein d'usages différents. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est très fiers, et en plus ça va être notre survie, de faire enfants, adultes et seniors, de faire différents marchés, que ce soit des écoles et des maisons de retraite en même temps. Ça, on peut vraiment en être fiers.
C'est vrai que c'est une réponse qui revient souvent aussi sur l'équipe. Et c'est vrai que c'est hyper, hyper important. Enfin, c'est certainement la chose la plus importante dans une aventure entrepreneuriale, l'équipe, puisque c'est ça qui va faire la réussite ou non d'un projet. Je vais rajouter une question parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Est-ce que c'est compliqué d'entreprendre avec sa mère ?
Alors, c'est ce qui est fou, c'est qu'on n'a pas du tout la même relation au travail qu'en dehors. Je suis très très proche de ma mère. Ça nous a beaucoup rapprochés d'avoir fait ça ensemble. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'on respecte énormément les compétences de l'autre. C'est-à-dire que moi, je sais qu'elle est brillante techniquement. Elle donnait des cours à Centrale sur le développement iOS Android. À chaque fois qu'on parle de ses projets qu'elle a fait avant dans le monde hospitalier, les gens disent waouh, c'est elle qui a construit cette architecture logicielle. Elle est brillante et je lui fais tout à fait confiance là-dessus. Et elle me fait tout à fait confiance sur la partie commerciale. Ce qui fait qu'on est un super bon binôme. On n'a pas de compétences en doublon où on pourrait un peu se chevaucher et pas être d'accord. Après, ma mère, elle est hyper jeune dans sa tête. Donc, c'est même de temps en temps la plus jeune d'entre nous. Elle est hyper drôle. On se marie énormément. Il n'y a pas ce décalage qu'on pourrait avoir avec 30 ans de différence. Elle va adorer que je dise ça. Tu vas me créer des problèmes. Et c'est vachement bien dans les débuts parce que, ou même maintenant d'ailleurs, hein, mais on a toujours plus de coups durs de coups positifs. Quand on monte sa boîte, on n'est pas, je pense, assez préparé parce que on voit en France la lumière, j'ai monté ma boîte, ça marche vachement bien, j'ai eu des millions, etc. Et on ne voit pas le temps d'attente des propositions, évidemment des réponses négatives qu'on reçoit et on est obligé toujours d'y croire à chaque fois. Tu vois, hier, j'ai écrit à Bill Gates. Au bout de 8 ans, j'ai écrit à Bill Gates sur son blog et je crois encore qu'il va me répondre. Et je l'ai tout de suite dit à maman, tu vois, à chaque fois, on partage ce genre d'espérance et à chaque fois, on croit ensemble. Et quand on est déçu, le fait que ce soit avec sa mère, par moment, c'était peut-être plus facile.
De toute façon, si on tente pas, c'est clair qu'on n'aura jamais de réponse. Mais à partir du moment où on tente, on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut...
Ça peut toujours marcher.
Ça peut marcher. On va passer à la partie rencontre, mindset et entrepreneuriat, qui est l'avant-dernière partie du podcast, qui concerne du coup des questions un peu plus globales sur les rencontres qui, je pense, sont pareil, comme l'équipe, hein, des choses extrêmement importantes dans une aventure entrepreneuriale. Et c'est quoi quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué dans ta vie ? Est-ce que tu pourrais m'en citer une ou deux ?
Il y a deux personnes, ouais, qui Moi, j'aime bien m'inspirer, entre guillemets, de modèles. Et j'adore, par exemple, je lis toutes les bios. J'ai lu Steve Jobs, j'ai lu Jack Ma, j'ai lu Elon Musk, j'ai lu Michelle Obama, parce qu'elle est entrepreneuse aussi, voilà, à sa façon. Et il y a des entrepreneurs, je trouve, qui m'inspirent, que je n'ai pas forcément rencontrés en physique. Mais il y a Xavier Niel, par exemple, que j'étais allée le voir à un salon. Il était intervenu sur une conférence sur l'innovation. Alors, je m'attendais au Steve Jobs à la française. Je n'ai pas eu Steve Jobs à la française parce que finalement, ce n'est pas son caractère. Mais il avait dit dans sa conférence, « Je réponds à tous mes emails ». Et donc, je lui ai écrit et j'avais trouvé déjà comme approche qu'un patron aussi gros, entrepreneur, etc., réponde à tous ses emails, j'y croyais pas. Et je lui ai écrit parce que je voulais monter une offre tablette maison de retraite. Donc, je lui ai dit, bah, avec Free, c'est parfait, c'est tablette, vous fournissez le Wi-Fi, moi, je fournis les jeux. Et il m'a répondu que Free ne faisait pas de micro-marché, etc. Il ne serait pas rentable, mais il avait pris le temps de me répondre. Et ça, j'avais trouvé que prendre le temps, et puis il avait donné 2-3 conseils, ça avait été vachement bénéfique. J'avais trouvé que c'était un beau modèle. Ça m'avait beaucoup plu. Et puis, il y a une personne aussi que je trouve très inspirante, que j'ai rencontré, qui s'appelle Philippine Dolbeau. À l'époque, on avait gagné un prix ensemble, DigiSchool, moi dans la catégorie senior entrepreneur et elle dans la catégorie jeune entrepreneur. Philippine Dolbeau, elle avait 15-16 ans quand on a eu ce prix ensemble. Elle venait de monter sa boîte New School à 15 ans, qui était un outil pour checker si les élèves allaient bien en cours ou pas. Et j'ai trouvé qu'à 15 ans, oser faire ça, monter ça, avoir le courage de le faire, c'était génial. Et je suis restée en contact avec elle. Et c'est vrai que ouais, ça, je trouve que c'est une des personnes que je trouve dans le monde de l'entrepreneuriat est très importante. Ça inspire et c'est... Ouais. Je te dis, elle se bat à 15 ans. Pourquoi moi, à 35 ans, je râle parce que les gens me répondent pas. Faut que je me batte. Et ouais.
Ouais, je m'étais déjà renseigné sur son profil. Et c'est vrai que parcours ultra inspirant. Effectivement, créer une boîte comme ça à 15 ans, c'est... Enfin, peu de gens peuvent le faire. Peuvent oser le faire, en tout cas. Et sans compter les compétences pour le faire aussi.
Oui, bien sûr.
C'est,
ouais.
C'est assez impressionnant. Est-ce que tu peux me citer une ou deux personnes qui t'inspirent aujourd'hui ?
Marc Sivoussini, j'aimerais beaucoup le rencontrer. En tant qu'entrepreneur, je trouve qu'il a toujours une approche, j'aimerais beaucoup le rencontrer. Mais c'est plutôt ce que je trouve vachement intéressant aujourd'hui, c'est de voir comment on met de plus en plus en avant des femmes entrepreneurs. Alors, c'est peut-être toujours un peu les mêmes qui tournent, mais je trouve que le profil de Pauline Legnaud, qui a monté Gemio, la marque de bijoux, et Justine Hutto, qui a monté la marque Respire, qui font des cosmétiques naturels, je trouve qu'elles sont vachement inspirantes parce qu'elles ont fait connaître leur boîte, mais elles sont aussi très fortes pour leur personal branding. Si tu veux, elles ont réussi à se faire connaître en B2C et à faire parler d'elles plus que de leur marque, par exemple.
Est-ce que tu peux me raconter une anecdote que tu n'as jamais racontée ?
Ma première nuit en maison de retraite. quand je faisais au début d'Inzeo, je t'ai dit que je faisais la tournée des maisons de retraite et j'étais amie avec une directrice régionale et voilà, à chaque fois je louais une voiture, mais comme on n'avait pas de moyens, je faisais toujours de la location de particulier à particulier, à la sortie des gares, etc. Et là elle m'avait dit, écoute, il y a une chambre de dispo, viens dormir dans la résidence. Elle me dit, moi je me prends une chambre à l'hôtel, mais toi bah, tu seras bien à la résidence. Et donc je dis pas de problème. Donc on dîne avec les résidents aux heures de poule à 18h30, elle va se coucher, tout le monde va se coucher, et moi je me retrouve dans ma chambre en maison de retraite et j'ai passé la nuit debout derrière la porte parce que j'entendais les résidents et que je savais pas si c'était à moi d'aller parce qu'ils appelaient à l'aide, ils avaient mal, etc. Et je savais pas si c'était à moi de me lever, si les infirmières allaient venir. Et j'étais en train de prier pour que l'infirmière vienne. Du coup, j'étais en train de vivre. Je me rappellerai toujours de cette nuit où je me faisais mon film de la maison de retraite et j'organisais les gens. Alors elle est partie. Je sais qu'elle est partie au deuxième. J'avais envie d'aller toquer à la porte et de leur dire vous inquiétez pas, je sais qu'elle va revenir, etc. Mais ça, ouais, ça, je crois que je l'ai pas raconté. Mais ouais, c'était ma nuit en maison de retraite et j'étais toujours aussi motivée le lendemain pour aider nos petits vieux, donc je me suis dit que ça y est, j'étais faite pour ça.
Une nuit blanche positive.
Ouais, c'est ça. Après, j'ai pris des hôtels.
Dernière question pour cette partie, c'est quel conseil donnerais-tu aux personnes qui souhaiteraient se lancer ?
Je leur dirais de bien tester leurs produits avec les utilisateurs finaux, parce que c'est pas parce qu'on a une idée belle sur le papier qu'elle va marcher. Faut vraiment le tester avec les utilisateurs. C'est comme ça qu'on a fait avec les seniors, mais je pense que c'est en itérant et en étant très proche des utilisateurs qu'on a un produit qui correspond. Et de pas forcément écouter tous ceux qui vont vous dire les levées de fonds, mais essayer d'abord de réfléchir à comment j'obtiens mes premiers clients. Et après, je ne suis pas du tout contre la levée de fonds, mais d'abord réfléchir à son business model et comment j'obtiens mes premiers clients, parce que c'est ça qui va convaincre aussi un investisseur, c'est qu'il y a déjà des gens qui ont cru. Et d'être patient. D'être patient.
Eh bien, écoute, le message est passé. On va passer à la partie finale du podcast. Est-ce que tu as un livre à me conseiller ?
Je sais pas si tu as lu la bio de Jack Ma d'Alibaba.
Non.
Ouais, je pense que elle est vraiment à lire parce que c'est un personnage Jack Ma hyper inspirant et on s'attache à lui, on s'attache à ce Chinois qui avait vraiment rien du tout, mais qui demandait qui avait une exigence avec ses salariés dingue et qui a réussi à créer Alibaba, quoi. Son histoire est vraiment est vraiment dingue.
Est-ce que tu as un film à me conseiller ?
Je dirais L'aventure, c'est aventure. Parce que moi, ce que j'adore dans L'aventure, c'est aventure, c'est, tu sais, au début, quand ils cherchent c'est un peu comme ils cherchent leur idée de business. Si tu veux, ils se disent, on va se lancer dans la politique parce qu'il y a des sous. Et donc, ils vont interviewer chaque parti politique. Donc Mao, bref, tous les partis de gauche, de droite, d'extrême gauche et d'extrême droite, et ils font un peu ils voient les pour et les contre de chaque, ils font un SWOT à chaque et ils cherchent l'argent. Et je trouve que l'aventure c'est un peu ça représente un peu pour moi les entrepreneurs qui vont avec leur couteau sans aucun moyen chercher là où il va y avoir des sources de revenus et qui se permettent des choses qui aujourd'hui ne seraient pas possibles. Parce que c'est vrai, on a tous bricolé au démarrage de notre boîte un truc un peu merdique dont on n'était pas très fiers, mais on s'est dit on croise les doigts, ça va passer quand même. Et ouais, c'est un peu l'esprit... l'esprit français d'aller chercher les opportunités coûte. Je trouvais que c'était pas mal.
Ok, très clair. C'est quoi ta musique du moment ?
Alors moi je suis très old school, hein. D'habitude je suis très Johnny Hallyday, tu vois, donc généralement les gens se moquent un peu de moi. En ce moment je suis très Vianney. Mais okay. je suis très Johnny pour me réveiller le matin. Mais j'ose pas trop le dire, ça fait
okay. Je ne me moquerai pas de toi. Si tu pouvais racheter n'importe quelle société sans limite financière, ce serait laquelle ?
Oh, je me ferais un kiff avec les parcs Disney. Je pense qu'on peut faire faire beaucoup mieux aujourd'hui. Je mettrais des trucs d'éducation, des séances de sport avec Coco un peu partout. Mais je pense que c'est un truc qui marche toujours, les parcs Disney, mais qui n'ont pas bougé d'un iota depuis quelques années. Et je pense que je me ferais un petit kiff là-dessus.
Et la dernière, c'est quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode ?
Ben, mon frère, tiens. parce que j'ai vu que t'avais interviewé Big Mama avec Cédou. Mon frère, c'est Lucas Soquet. Il était banquier chez Lazare. Il a monté Panda Panda, Mahou, c'est une chaîne de resto asiatique, un peu le Big Mama de l'Asie, avec des prix hyper abordables parce que les plats sont à 15 euros. Ça cartonne en 2 ans et là, ils sont en train d'ouvrir leur quatrième ou cinquième resto. Et donc, c'est deux banquiers d'affaires qui en ont eu ras-le-bol de la finance et qui ont monté ça juste avant le Covid et qui, pendant le Covid, ont quand même continué à acheter des restos. Et ça, je pense que tu n'en as pas beaucoup.
Trop bien. Bah, merci pour la reco, merci pour l'échange. J'ai trouvé ça très cool de revenir un peu sur ton parcours, sur l'histoire de Dinseo, sur aussi toutes les problématiques auxquelles répond ta société. Tout ce que je peux te souhaiter, c'est de la réussite et puis plein d'utilisateurs heureux et que ça permette aussi d'améliorer la vie de des gens aussi hein, à travers vos différents programmes. Merci à toi, j'espère que toi qui nous écoutes, ça t'a plu aussi. Puis on se retrouve très prochainement sur Serial Entrepreneur.
Salut, merci Justine. Beaucoup. Salut François.
Cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. T'abonner via la plateforme audio de ton choix, Spotify, Deezer, Apple, Google, le podcast est présent partout. T'abonner au compte Instagram, @serialentrepreneur avec un underscore à la fin. Et puis t'abonner à la chaîne YouTube du podcast qui est à mon nom, François Lay. Je fais également des vidéos où je raconte des histoires d'entreprise. Tu peux même m'envoyer ton feedback à l'adresse françois@serial-entrepreneur.fr. Voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.